Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous, éléments précieux, à ne pas manquer. Le sujet du jour. 29 juillet 2024, interprétation de l'article 14 de la directive Habitat par la Cour de justice de l'Union européenne. Minute. Pourquoi a-t-on besoin d'interpréter une loi? Dans quel contexte la Cour de justice de l'Union européenne peut-elle être appelée à interpréter une loi? En quoi consiste cette directive Habitat et l'article 14? Si vous avez déjà eu la chance de lire un article de loi, vous savez dès lors à quel point les nuances qui y sont représentées laissent place au doute lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi en question. L'entité à consulter pour interprétation est en premier lieu la Cour de justice concernée. C'est précisément ce qu'il s'est passé en ce début d'année, à la demande de la Cour supérieure de justice de Castille et León, en Espagne. Cette Cour de justice, initialement saisie par l'Association pour la conservation et l'étude du loup ibérique, devait se positionner par rapport à une décision prise par l'administration de la commune de Castille et León, et notamment l'approbation du plan d'exploitation local du loup dans les territoires de chats situés au bord du fleuve Douro en Castille et León. La Cour de justice de Castille et León se réfère alors à la directive européenne des habitats, et là c'est une gymnastique juridique qui dépasse leur juridiction. C'est ainsi que la Cour de justice de Castille et León se retourne vers la Cour de justice européenne pour comprendre comment faire appliquer le texte de loi en question. Petite parenthèse sur cette loi. La directive du 21 mai 1992, dite Directive Habitat, promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d'un réseau écologique européen de zones spéciales de conservation, les ZSC. L'Espagne, tout comme la France, recèle de nombreux milieux naturels et espèces cités par la directive. Habitats côtiers et végétation, des milieux salés, dunes maritimes et continentales, habitats d'eau douce, landes et forêts tempérées, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes. Avec leurs plantes et leurs habitants, mammifères, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, insectes et autres mollusques. L'article 14 de la directive concerne les espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. Ainsi, le but des mesures de gestion d'une espèce, rappelle la Cour de justice de l'Union européenne, est de maintenir ou de rétablir l'espèce concernée dans un état de conservation favorable. Lorsque ces mesures incluent des règles relatives à la chasse, elles sont de nature à restreindre et non à étendre le prélèvement des espèces concernées. La chasse peut donc même être interdite si nécessaire. Et si une décision administrative l'autorise, elle doit être justifiée et fondée sur les données de surveillance de l'état de conservation de l'espèce. En particulier lorsque celle-ci est d'intérêt communautaire, indique la Cour. Ce dont n'a pas tenu compte la communauté autonome de Castille-León qui a adopté un plan d'exploitation du loup permettant de le chasser, sans tenir compte d'un rapport adressé par l'Espagne à la Commission européenne qui indiquait que le canidé, le célèbre loup, se trouvait dans un état de conservation défavorable dans le pays. En tout état de cause, explique cette Cour de justice, les évaluations de l'état de conservation d'une espèce et de l'opportunité d'adopter des mesures de gestion doivent être réalisées en tenant compte du rapport élaboré par les États membres tous les 6 ans en application de la directive, ainsi que les données scientifiques les plus récentes obtenues grâce à la surveillance que les États effectuent. Ces évaluations doivent être faites non seulement au niveau local, mais aussi au niveau de la région, voire au niveau transfrontalier. Celle-ci rappelle que le principe de précaution doit être appliqué en la matière, c'est-à-dire que des mesures de protection, telles que la restriction ou l'interdiction de la chasse, peuvent être nécessaires lorsqu'il subsiste une incertitude sur le maintien d'une espèce dans un état de conservation favorable. Pour la première fois, la Cour de justice a explicitement appliqué le principe de précaution dans le domaine de la protection des espèces et a surtout rappelé que toute décision se devait d'être éclairée par des données de suivi naturaliste pour être certain que l'espèce en question pouvait supporter des prélèvements. Langage politiquement correct pour abattage. Si je vous parle de cette affaire bien particulière, c'est pour aborder d'autres points liés à cette directive Habitat. En France, les règles de tir létal sur les loups viennent d'être assouplies. En effet, le nouveau plan loup s'applique depuis le 20 février et s'inscrit dans un contexte de crise agricole. Alors que les syndicats d'éleveurs dénoncent les attaques répétées des loups sur leur bétail, les associations de défense des animaux appellent à nuancer. Une pétition portée par 11 d'entre elles demande le maintien du statut strictement protégé du loup en Europe. À cela, il est tout à fait normal de se poser les questions suivantes. En quoi est-ce si important de conserver le loup alors que celui-ci avait été éradiqué il y a plusieurs décennies ? On entend courir le bruit que celui-ci gagne du terrain et tue de plus en plus dans les pâturages. Ne faut-il donc pas réguler cette espèce pour préserver les troupeaux de nos moutons et chèvres adorés ? La présence du loup sur notre territoire est un élément important à prendre en compte pour une gestion raisonnée des populations de grands herbivores. Je m'explique. Voyez nos forêts actuelles. La plupart d'entre elles sont vieillissantes et en piteux état, comme le démontre le dernier rapport de l'IGN, présenté dans l'épisode Feuilles de chou numéro 19, en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9. Plus le nombre d'herbivores augmente, et plus la régénération naturelle des forêts est ralentie, voire complètement stoppée. Le cas de Yellowstone est très parlant. Il y a quelques décennies, le loup et autres prédateurs ont été éradiqués. Résultat, la forêt a commencé à radicalement changer de forme, les nouvelles pousses d'arbres se faisant directement manger par les herbivores. Une fois que la ressource est venue à tarir, ce fut au tour des herbivores de commencer à disparaître. Fichtre ! Une impasse se dessinait avec en son bout la chute d'un des écosystèmes emblématiques des États-Unis. La solution ? Réintroduire le loup. En effet, la simple présence de ce prédateur, au même titre que l'ours ou le lynx, a relancé une dynamique naturelle où l'écosystème forestier retrouvait, au fur et à mesure des années, une régénération naturelle de ses peuplements. Au-delà de ce lien entre les différents maillons du réseau trophique, réseau alimentaire de l'écosystème, on observe également un phénomène crucial pour que les populations d'herbivores soient les plus durables possibles, la sélection naturelle. Si les individus les moins vigilants, vieillissants ou mal développés, sont des proies par excellence, alors la population en elle-même sera moins affectée par des mauvaises combinaisons de couples reproducteurs, un peu trop mal en point génétiquement, pouvant à terme conduire à un taux très faible de survie des jeunes individus et in fine de l'espèce. De même, la menace de prédation affecte le comportement des individus qui y sont régulièrement soumis. Ils augmentent leur vigilance, c'est en tout cas ce qu'une étude menée en Haute-Tinée semble indiquer. En augmentant la vigilance, les proies potentielles deviennent plus complexes à capturer. Peut-on dès lors attendre des comportements similaires de nos animaux domestiqués ? Tout porte à croire que ces derniers ne possèdent plus les capacités physiques de se prêter au jeu de la fuite. Nos espèces domestiquées sont désavantagées d'une part via leur physionomie gourmande, et d'autre part, car elles n'ont plus. Cette vigilance naturelle qui s'enclenche dans le contact avec les prédateurs a été rare ces dernières décennies. Ces dernières années, l'espèce de loup gris tendait apparemment à croître et surtout à se disperser à travers la France. Pourtant, une étude de suivi naturaliste parue en 2024 dans les Alpes, Préalpes et Massifs provençaux français, portée par le groupe Loup Help, donne à voir une réalité encore peu relayée. En 2024, pour la première fois depuis le retour naturel du loup en France dans les années 90, tous les clignotants passent au rouge. L'étude se base sur le suivi de 36 meutes de loups durant l'année 2023, réparties dans les 9 départements situés à l'est du Rhône. En 2023, nous assistons pour la première fois à une dégradation des paramètres démographiques liés à la production des meutes, constate le groupe de naturalistes. Le nombre de louveteaux par meute reproductrice observé de juin à décembre, le nombre de louveteaux survivants en fin d'automne, début d'hiver, la taille de la meute, toute classe d'âge confondue, tous ces paramètres perdent un point. Résultat, 11% des meutes, une meute sur 10, ont été victimes des tirs dérogatoires létaux. 31% des meutes ont subi des actes de braconnage. Et 3 meutes ont été éradiquées, à quasi éradiquées, par des actes hostiles légaux ou illégaux. En 2023, les actes de braconnage, documentés par des vidéos, sont en nette augmentation. La même année, 198 loups ont été abattus légalement. La baisse du nombre de canidés est confirmée par les pouvoirs publics. Traquer le loup serait-elle donc la seule option pour protéger les dits troupeaux ? Un dispositif national existe pourtant pour éviter les dégâts d'une telle prédation. L'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours a pour objectif de favoriser l'adaptation des activités d'élevage à la présence de ces prédateurs. Elle vise à accompagner financièrement les éleveurs détenteurs de troupeaux d'ovins et de caprins, donc nos chèvres et nos moutons, soumis à un risque de prédation à la mise en place de mesures de protection des troupeaux, en compensant les surcoûts induits par les changements de pratiques. On parle du coup du gardiennage renforcé, des chiens de protection, des clôtures électrifiées, des études et de l'accompagnement technique pour estimer la vulnérabilité du troupeau. Les communes pour lesquelles ces types de dépenses sont éligibles sont classées selon un zonage dépendant de la pression de prédation. Il s'agit des cercles, numérotés de 0 à 3 pour le loup et de 0 à 2 pour l'ours. Ce classement est établi annuellement par des arrêtés préfectoraux. Ainsi, l'Ille-et-Vilaine, oui, en Bretagne, est désormais en cercle de niveau 3 pour une éligibilité aux aides étant donné la dispersion avérée du loup jusque dans ces contrées. Le montant de l'aide est adapté aux besoins du demandeur en fonction du risque de prédation auquel il est confronté. Il est possible que le manque de données naturalistes ne permette pas de classer une zone et donc de permettre l'accès aux subventions pour les bergers. Alors, si vous croisez un loup ou un indice de présence de ce dernier, faites un signalement sur le site loupfrance.fr. La donnée sera vérifiée sur le terrain par des naturalistes aguerris. Avec nos peurs, nous avons de quoi habiller les loups pour les hivers à venir. Et si nous tendions la feuille, ne serait-ce qu'un instant, à un conte fantastique sorti des sous-bois. Loup gris et la mouche.
Ce jour-là, loup gris a bien mangé. À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup,
bzz, bzz.
Loup gris dresse l'oreille, mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort.
Bzz, bzz.
Loup gris regarde autour de lui, ouvre la gueule et...
Slip, slap.
Gobé, avalé, la mouche. Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne.
Aou, aou.
C'est le chant des loups. Loup gris se mêle à ses frères, le museau en l'air.
Bzzaou, bzzaou.
Toute la meute éclate de rire, sauf le chef de bande qui fait des gros yeux.
Loup gris, c'est quoi cette voix ridicule ?
Je sais pas, chef, c'est sûrement à cause de la mousse que j'ai avalée aujourd'hui. Hein?
Loup gris, je ne veux pas d'un loup qui zozote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en.
Ne t'inquiète pas, chef. Je vais m'en occuper. Vite fait, bien fait. Je gère la situation, chef.
Furieux, le chef s'écrie.
Et arrête de m'appeler chef. On dit chef, c'est clair.
Très clair, chef. Désolé, chef. Oh non, j'ai encore dit. Pardon.
Ça suffit, Lougri. Va voir ailleurs si j'y suis.
Le lendemain matin, Lougri rôde sur un sentier. Il marmonne entre ses dents.
Courage, champion. Tu vas trouver une solution.
Suspendu à son fil, une araignée l'entend.
Ouah, ravissante ta nouvelle voix. Charmante, ce zozotement.
Oh, ça va, Maxipat. C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une mousse.
Une mousse? Moi, j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien.
Hé, hé,
se dit Lougri.
J'ai une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger les mousses. Extra mon plan.
Lougri ouvre la gueule et...
Slip, slap.
Gobé, avalé l'araignée.
Et voilà, c'était un jeu d'enfant. Et zut, je parle encore comme ça.
Soudain, des fils d'araignées se mettent à sortir des oreilles de Lougri. Les fils s'allongent jusqu'au sol. Lougri marche dessus, s'en mêle les pattes.
Batata !
Tombe par terre, tête la première.
Oh, j'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre. Et en plus, j'ai des fils qui pendouillent tes oreilles.
À midi, Lougri, clopin clopant, s'enfonce dans la forêt.
Allez, mon grand, accroche-toi, t'es un gagnant.
Dans le bois, un oiseau l'aperçoit.
Waouh, magnifique ton nouveau look. Quelle classe, une vraie beauté.
Oh, ça va, face de bec, c'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une araignée.
Une araignée, moi je mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne fait rien.
Hé, hé,
se dit Lougri.
J'ai une idée de génie. S'ils avalent face de bec, il pourra manger l'araignée. Et cette fois-ci, j'en suis sûr, ça va marcher. Fabuleux, mon plan.
Lougri ouvre la gueule et...
Slip, slap.
Gobé, avalé l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de Lougri s'agitent de bas en haut. Il gesticule sans s'arrêter, impossible de se contrôler.
Skrrr.
Il fonce dans les ronces.
Bim.
Il se cogne dans les rochers.
Oh, j'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre et des fils qui pendouillent. Et cerise sur le gâteau, je bats des pattes comme un oiseau.
En fin de journée, Lougri, tout cabossé, désespéré, traîne sur un sentier.
Trop, c'est trop. Je suis au bout du rouleau.
Au croisement d'un chemin, Renard est là.
Ouah, quelle élégance. Sympa ta nouvelle danse.
Oh, ça va, monsieur, je sais tout. J'ai avalé une mousse, une araignée et un oiseau. J'ai le ventre prêt à éclater. Hein. Ça gargouille, ça chatouille et ça gratouille.
Lougri, tu me fais pitié, je vais t'aider. Regarde là-bas, tu vois ces deux arbres bien serrés. Tu vas te glisser entre eux, ça t'écrasera un peu et après, ça ira mieux.
Et Renard s'éloigne sur le sentier. Lougri tente de se glisser entre les deux arbres. Il se tortille, il s'écorche, c'est trop étroit.
Ah, ça passe pas.
Il essaie de se dégager.
Oh non, je suis coincé.
Il pousse, pousse encore. Pousse tellement fort qu'il pète. Voilà l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsées. Voilà Lougri enfin libéré. Le soir, Lougri parade au milieu de ses frères.
Chef, chef, tu vas être fier de moi, écoute. Aou, aou, c'est génial, hein?
Ok, très bien.
Dit le chef.
Tu peux garder ta place dans la meute, mais arrête de faire le malin.
Le chef se tourne vers ses compagnons.
En avant, mes frères! On va croquer du mouton!
Mais.
Nom de nom, un loup qui devient mouton. Voilà que nos imaginaires nous embarquent dans des recoins bien intrigants d'une réalité improbable. Et si ces artistes en puissance avaient d'autres choses à nous raconter ? la faculté de biotechnologie de l'université de Ljubljana, en collaboration avec l'organisation Artists for Nature Foundation, a organisé un atelier artistique international intitulé « Vivre avec les loups, Living with Wolves ». Du 12 au 18 juin 2022, dans le cadre du projet Life Wolf Alpes, les loups des Alpes, cet atelier a réuni 5 artistes internationaux spécialistes de la faune sauvage. Federico Gemma d'Italie, Scabol Coquet de Hongrie, Tim Wotton d'Écosse, Erwin van der Kolk des Pays-Bas, Pascalis Dougalis de Grèce et la peintre académique slovène Clarissa Sipos. Au cours de l'atelier, les artistes ont rendu visite à divers résidents locaux qui leur ont montré leur point de vue sur la coexistence avec les loups. Les artistes ont également appris à connaître le travail de terrain auprès de Jaka Kriktalik, employée à la faculté de biotechnologie, et ont participé à un atelier avec les enfants de l'école primaire locale en coopération avec une peintre académique slovène, Carmen Bajek. L'un des principaux objectifs du projet est d'améliorer la coexistence avec les loups. Le retour des loups dans des zones où ils ont été absents pendant des décennies peut provoquer des conflits avec les personnes qui y vivent. La faible tolérance est donc l'un des principaux défis pour la conservation de l'espèce. À cette fin, le projet organise un certain nombre d'événements visant à démontrer les avantages et les aspects positifs de la coexistence avec les loups. L'art est un moyen important de faire appel au côté émotionnel, d'attirer l'intérêt du public et de montrer les aspects positifs de la coexistence d'une manière différente. L'atelier d'une semaine du projet s'est donc terminé à Bled par un festival d'art de rue. Le projet Life for Alps est cofinancé dans le cadre du projet Life 2018 Nature et Biodiversité et s'inscrit dans la continuité d'autres projets Life visant à résoudre les problèmes de conservation des grands carnivores. Le programme Life a débuté en 92 comme l'expression d'une prise de conscience du public sur la nécessité de protéger l'environnement. Chaque année, la Commission européenne qui gère le programme Life Plus publie un appel d'offres et établit quels projets parmi ceux reçus peuvent bénéficier du soutien financier de Life Plus. La Commission européenne publie régulièrement la liste des projets appuyés par le programme Life. Un loup, deux moutons, trois humains décident de câbler le monde autrement. À vos marques, prêts, pensez en toute volupté.
Et si seulement pour un instant, je lâchais le confort, mes mains, et j'osais le dire différemment, sans me soucier du sens du vent. Voici donc une solution, cultiver sa propre opinion. Demain, chacun fait comme il le sent. Et ben voilà. C'est ça, exactement.
Oh, hé hey. Y'a pas de mais.
Non, mais...
Tu y as pêché où, baobab, acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une passionnée du vivant. Avec cette question d'actu, cuisiner aux petits oignons.
Lande palissandre, mais les œufs tremblent. Tremble être noyé.